Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir, pour débriefer l'actu, Jérôme Colombin, mesdames, messieurs. Oui, c'est lui. Salut Jérôme.
Salut François, bonsoir à tous.
Journaliste, créateur du podcast Monde Numérique, que je vous invite à découvrir, bien sûr, au moins une fois par semaine, si ce n'est plus.
Voilà,
sur le site Monde Numérique. À tes côtés, c'est Michel Lévy-Provençal. Salut Michel.
Bonsoir François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness. Ça s'est bien passé, ton rendez-vous TEDx à Paris?
Très très bien passé, on est content. On a fait le plein, on était 2800 personnes avec des super speakers.
Ouais. Oui, puisque tu nous en parlais précédemment, donc voilà, c'était dans les préparatifs. Là, ça s'est déroulé.
Un retour après 5 ans d'absence.
Parfait. Vous avez parlé un peu de tech ou pas?
On a parlé un peu de tech, de neurotech.
De neurotech?
Ouais.
On a avec parlé une personnalité.
Dont je ne sais pas si on peut en parler, puisqu'il est en campagne.
Ah oui, donc on va pas en parler.
Politique est en campagne. Vous verrez la vidéo. C'est
voilà.
Un teaser.
Ça sera dans quelques jours, la vidéo.
Ça sera pour
le replay de ce TEDx. Oui. Et le retour de Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut François, salut à tous.
Et voilà, encore une fois, Frédéric Simotel qui a une très belle mine. Je ne sais pas où tu allais, mais ça avait l'air d'être un petit peu plus ensoleillé qu'à Paris,
oui.
Visiblement, Fred.
Certainement, oui, oui.
Alors, messieurs, pas mal de choses dans l'actu. On va revenir sur les déboires d'Adobe dans quelques instants. Apple qui, évidemment, vous l'avez suivi durant la WWDC, va accélérer sur l'IA, mais accélère assez lentement hein, quand même. Hein. Il passe pas tout de suite, on va dire, la cinquième. On évoquera aussi le Vision Pro qui arrive dans quelques jours en France. Hein. Je crois que c'est début juillet.
12 juillet.
Le 12 juillet, date importante.
Oui.
C'est mon anniv, c'est pour ça.
Je me suis encore une fois. Je demandais.
C'est vrai.
Oui, j'ai essayé de le faire oublier parce que c'est.
Non, mais attendez. Ça. Voilà, le 12 juillet, c'est la sortie du Vision Pro, l'anniversaire de François Sorel.
Message.
C'est tout ce que je vous dis, quoi. Voilà. Ouais. Message subliminal. Bon, préparez 4000 balles, hein, quand même, parce que c'est.
Voilà, on attendra la version 2.
Voilà. On attendra la version 2. Parce que c'est justement ça. Il y a une rumeur qui circule en ce moment comme quoi Apple aurait laissé tomber le projet du Vision Pro 2 pour se focaliser, en fait, sur un Vision tout court qui serait moins cher et sans doute plus populaire. Et encore, c'est pas tout à fait sûr. On parlera aussi de toutes ces intelligences artificielles génératives. C'est vrai qu'on commence à avoir du monde au portillon. Est-ce qu'il va y avoir un business pour tout le monde? Hein, est-ce qu'on va pas avoir une bulle, finalement, de toutes ces IA génératives? On en parlera. Jérôme nous expliquera un petit peu comment il a utilisé ChatGPT avec les programmes politiques.
Ouais.
C'est assez drôle.
J'ai benchmarké les programmes avec ChatGPT.
On va voir ce que ça donne.
Est-ce que ça fait changer tes votes?
Ah, je vais te raconter ça.
Bon, d'accord. On parlera aussi de, tiens, justement, d'OpenAI qui veut changer son statut. C'est très important, ça aussi. Hein. OpenAI qui veut vraiment maintenant gagner beaucoup, beaucoup d'argent. On y reviendra. Et puis, si on a le temps, on parlera de ce constructeur de smartphones chinois, Oppo, qui avait quitté la France vraiment avec beaucoup de bruit, hein, d'une manière un petit peu...
brutale, oui.
D'ailleurs, brutale et pas très... catholiques, on va dire. Et là, ils reviennent donc après avoir un petit peu fait le ménage chez eux. Là aussi, si on a le temps, on évoquera tout ça. Mais pour débuter, peut-être l'avez-vous suivi, messieurs, dans l'actualité, ça se passe aux États-Unis et c'est Adobe. Alors, on ne présente plus Adobe, éditeur de logiciels qui existe depuis 30 ans,
Photoshop,
minimum.
Voilà,
enfin, voilà, Photoshop.
Lire la lecture des PDF.
Et voilà, des logiciels de montage vidéo. Enfin, voilà, Adobe, première, etc. Adobe a fait son business sur ces logiciels d'excellente qualité. On en a parlé d'ailleurs récemment avec l'IA, hein, puisqu'ils adaptent aussi, ils intègrent l'intelligence artificielle générative dans leurs logiciels. Sauf que là, ils se font rattraper par la patrouille. Et la patrouille, c'est le gouvernement américain. Qui exige que Adobe remette un petit peu à plat ses conditions d'utilisation et surtout les règles qui le lient aux consommateurs. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il est très difficile de résilier un abonnement Adobe sans payer en fait des sommes supplémentaires.
Mm-hmm.
Ça me fait penser un peu à Canal à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Canal, quand on ratait la période où on pouvait se désabonner, on repartait sur un an en fait. C'était terrible. Ça a été mis à plat.
C'est un peu tout ça. Ils ont à la fois les difficultés pour résilier l'abonnement. On n'explique pas clairement les frais si on résilie pas ces abonnements, combien ça peut nous coûter, etc. Et puis le troisième, c'est on nous dit pas, tiens, si vous voulez renouveler ou pas. Non, on nous prévient pas, on renouvelle automatiquement.
Voilà.
C'est un peu dans dans les grandes lignes ce qu'on leur reproche.
Et les consommateurs sont pris en otage, finalement, parce que il y a des témoignages qui sont assez intéressants sur Twitter de consos qui voulaient résilier leur abonnement Adobe et qui n'arrivaient pas à le faire parce qu'en fait, ils trouvaient pas la bonne page. C'était compliqué. On leur demandait d'appeler un numéro de téléphone, mais dès qu'on expliquait qu'on voulait se désabonner, ben comme par hasard, la hotline raccrochait. Enfin, des choses assez bizarres, on va dire, et pas très cool de la part d'un grand éditeur de logiciels. Et donc, visiblement, là,
oui, c'est surtout
le gouvernement américain veut sanctionner.
Pourquoi ils ont franchi une nouvelle étape dans la Federal Trade Commission, hein, chambre de commerce, on va dire, américaine. Oui. Et en fait, pourquoi ils ont franchi une étape dans les sanctions, enfin vraiment dans ce qu'ils veulent faire face à Adobe, c'est que Adobe, visiblement, a vraiment mis de la mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'on dise, bon, c'est mal laissé en tout petit, on l'a tous eu, hein, nos contrats d'assurance sont comme ça, hein, en tout petit dans la ligne, mais c'est quand même indiqué à nous de bien lire le contrat. Là, il y a vraiment eu une volonté de ne pas informer le client, de ne pas lui répondre au téléphone. Donc c'est vrai, c'est ça qui est sanctionné. Enfin, bien entendu, tout ce qui est les difficultés pour résilier son abonnement, mais c'est vraiment la mauvaise foi qui est mise pour répondre aux attentes des clients, enfin de ceux qui voulaient quitter en tout cas Adobe.
Comment on peut expliquer ça d'une boîte aussi, on va dire, respectée, respectable qu'Adobe?
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça vient d'abord sur Adobe. C'est-à-dire que c'est quand même une pratique qui est courante. Ces systèmes qui font qu'on a beaucoup de mal à trouver la bonne page pour se désinscrire, ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire du design, notamment de services en ligne, qui mettent en avant,
tournent en rond,
voilà, qui mettent en avant la simplification pour s'abonner et qui nous empêchent par plein de moyens de design, vraiment de design,
oui, bien sûr,
de nous désabonner.
Et l'idée, c'est qu'après, on jette l'éponge, on se dit, zut, on le fera demain, après on l'oublie, et puis voilà.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir à quel point Adobe, le premier segment de clientèle d'Adobe, ce sont les designers. Dans quelle mesure ça n'est pas le premier acteur qui est touché, parce que typiquement ce sont les designers leurs clients et qu'ils connaissent parfaitement ces fameux dark patterns et ces méthodes. Donc peut-être que c'est une première étape et que d'autres acteurs dans les mois qui viennent vont aussi être touchés par ce type de sanctions.
Jérôme.
Alors c'est vrai que c'est très bien que peut-être on tape un peu comme ça dans la fourmilière, mais moi j'ai un peu de mal à évaluer l'importance de cette information parce que j'ai l'impression que bon, c'est une pratique marketing contestable, détestable même dans certains cas, mais qui est tellement répandue. Alors peut-être que là ils sont allés très très loin. Allez savoir, est-ce que c'est, je sais pas, un directeur marketing quelque part qui s'est dit, qui a voulu faire le malin en se disant tiens, ben on va renforcer un peu la procédure pour se désabonner. C'est vrai qu'on a souvent ces mauvaises surprises, mais c'est pas non plus des affaires d'État. Enfin, et puis c'est amusant parce que je sais pas si vous avez essayé, même Amazon, qui est un peu le roi qui porte le client au nu, essayez de trouver le formulaire de contact. Tout est bien fait sur le site d'Amazon, mais jusqu'au moment où vous essayez vraiment d'envoyer un mail. Et là, c'est un défi. Et là, il faut prévoir du temps et se dire, allez, je vais gagner contre Amazon. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai gagné.
Oui, mais c'est vrai que toutes ces
boîtes... Mais c'est très compliqué.
Ouais, est-ce que la question que l'on se pose, parce que c'est quelque chose qui s'adresse plutôt, enfin, les logiciels d'Adobe, enfin, ceux auxquels on pense, Photoshop, ça s'adresse beaucoup aux créateurs. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet IA? C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé à avoir une petite vague, plus les mid-journée, enfin voilà.
Oui, mais moi, justement, je voulais qu'on aille sur ce terrain-là, t'as raison.
Commence à être un peu meilleur et les gens se disent, tiens, est-ce que j'ai toujours besoin d'un Photoshop? Est-ce que je veux dire à la photo, tiens, retouche-moi ça en rouge, en vert, en bleu? Et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas senti une petite vague de gens qui venaient, tu vois?
Bah après, ça n'excuse pas les méthodes,
non,
les méthodes un peu.
Mais justement, après, on camoufle. On se fait encore plus difficile à trouver les pages pour se désabonner.
Tu as raison. Je pense qu'Adobe a un problème très ancien qui est que ils n'ont jamais réussi à bien adresser leurs deux publics. Exactement. C'est-à-dire les hyper pros dans les entreprises qui ont des gros moyens, qui ont des grosses consommations.
Il y a beaucoup d'argent grâce à Adobe.
Exactement, mais vous avez aussi tous les petits. Et quand, par exemple, vous voyez aujourd'hui ce que propose une plateforme qui s'appelle Canva, qui est australienne, je crois, et qui offre des choses à peu près similaires à ce qu'on peut faire avec Photoshop, de manière beaucoup plus simple d'ailleurs. Mais Canva a des tarifs beaucoup plus accessibles, peut toucher vraiment des travailleurs indépendants, des freelances, des petites entreprises. Et Adobe, ils étaient toujours avec des tarifs pas possibles, des offres très compliquées où tu étais obligé de prendre tout ou rien. Et ça, effectivement, ils n'ont jamais réussi à régler ce problème-là.
Et puis là, on parle de Photoshop, mais c'est toute la gestion documentaire. qui est en train aussi de prendre un coup avec l'IA, parce qu'est-ce qu'on est obligé d'avoir des champs de données aussi bien. Mmh. Une fois qu'on a bien rangé ces données avec différents types de fichiers, est-ce qu'on est obligé de se tourner vers des logiciels payants, chers comme Adobe, alors que peut-être qu'avec l'IA, on va réussir à avoir des choses qui, à travers nos requêtes, nos prompts, vont y arriver. Donc, à mon avis, il y a quelques signaux faibles qui disaient, oula, attention les gars, comment faire pour alors être meilleur, oui, mais si on pouvait aussi
empêcher les gars de partir, ça serait pas mal.
Mais ils fermer les portes.
Ils ont eu un autre souci il y a quelques semaines. Je sais pas si vous en avez parlé dans Tech & Co. C'est par rapport au droit d'auteur et à la captation des œuvres qui permettaient ensuite de créer, de générer des images à la manière d'eux, sauf qu'ils avaient oublié de rémunérer, enfin, ou de prévenir les détenteurs des droits.
Ouais, ça fait beaucoup d'oubli tout ça quand même. Bon. Enfin, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Hein. On leur jette pas la pierre, mais c'était intéressant et amusant de voir que Adobe aussi est sous les fourches codines du gouvernement américain.
Tous les titres de une de la presse américaine web
mettent en avant ça.
C'est vraiment.
Tiens, toujours aux États-Unis, c'est Apple, bien sûr. La WWDC, c'était la semaine dernière. Vous avez pu la suivre ici même sur BFM Business dans Tech & Co. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en sait un petit peu plus. Là, maintenant, on commence à digérer toutes ces informations. Évidemment, iOS 18 va pousser l'intelligence artificielle générative. Évidemment, il y aura ChatGPT qui va arriver dans Siri. Mais quand on commence à regarder un petit peu les communications un peu plus, on va dire, réfléchies d'Apple, on se rend compte que c'est pas pour tout de suite, tout ça. Mmh. Et que ça va prendre du temps. Que iOS 18 sortira en septembre, mais il n'y aura que très peu de fonctionnalités d'IA.
Pas en français.
Voilà, ça sera réservé qu'aux Américains. Et que éventuellement en 2025, on aurait d'autres couches d'IA qui pourraient arriver. Et en 2025, donc peut-être dans un an, Siri avec ChatGPT, peut-être en français, enfin, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de grogne et de déception de la part de pas mal de fans d'Apple et même des observateurs tout simplement d'Apple qui se disent mais est-ce que finalement ils étaient prêts? Mais on a l'impression que voilà, au-delà des effets d'annonce, là maintenant ça me fait un peu penser à toutes ces startups où on dit oui je vais pouvoir le faire, mais ils ont rien fait du tout.
Il y a que le PowerPoint qui marche.
Voilà, il y a que le PowerPoint qui marche, et puis après les gars, bon, il faut y aller parce qu'on a prévu et on a promis des trucs quand même assez costauds. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Michel?
Moi, j'en pense que je suis très content parce que j'ai gagné mon pari. Hein, il y a trois semaines, on était sur ce plateau et je disais,
je me souviens plus qu'on avait parié.
Bah, il va y avoir beaucoup d'annonces, mais ça ne sera pas prêt avant l'année prochaine parce qu'ils sont excessivement en retard. Ils n'ont pas de modèle. Au sens modèle d'IA. Ils ont un vrai problème de promesse, c'est la privacy. Autrement dit, les données ne peuvent pas circuler. Alors, ils ont trouvé un moyen en créant ce qu'ils appellent un cloud privé. Autrement dit, les données vont pouvoir, quand elles ont vraiment besoin d'utiliser ChatGPT, en l'occurrence les modèles d'OpenAI, aller sur un cloud qui serait un cloud ultra sécurisé, mais tout de même, ça circule, les données circulent, donc c'est pas vraiment de la privacy. Et dans tous les cas, ils sont très en retard par rapport à Samsung. Galaxy AI existe depuis 3-4 mois déjà, et on le disait, et franchement,
c'est après, les promesses d'iOS 18 sont plus intéressantes, je trouve, que Galaxy AI. Oui. Je trouve, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui ont été présentées. Oui, et comme tu le dis, c'est que de la présentation.
C'est que de la présentation d'abord. Moi, je suis très curieux de voir, même en 2025, les cas d'usage. Parce que ce qui a été présenté est évidemment préparé, filmé comme il le faut, avec beaucoup de storytelling comme sait le faire Apple. En 2025, on va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, clairement, OpenAI est dans une position de force extraordinaire. Entre d'un côté Microsoft et de l'autre côté Apple, ils sont au centre du jeu.
Ah oui, c'est formidable. C'est eux qui arbitrent tout ça. Mm-hmm. Jérôme, alors tu as suivi tout ça, bien évidemment, avec beaucoup d'attention. Quelle est ta réflexion sur tout ça?
Ben, effectivement, je me demande si Apple ne va pas un peu avoir le syndrome Google. C'est-à-dire que
c'est pas très sympa.
Hein. Non, mais par rapport à l'IA, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas le droit à l'erreur.
Hier, on les comparait à WeWork.
Oui, c'est vrai, c'était pas terrible.
Les écouteurs replay,
oui.
Alors, il s'est un peu lâché.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils ne peuvent pas se tromper. Le problème de Google avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne donne pas toujours de bons résultats. Or, Google, c'était un peu synonyme du bon résultat, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de cochonneries qui remontent, mais grosso modo, on avait l'impression que Google, c'était la référence. Et Apple, la promesse, c'est que ça marche toujours très bien, tout est fluide, il y a le respect de la protection des données, etc. Et du coup, entre cette promesse-là, cette image, et puis quand on a le poids d'une entreprise comme Apple, évidemment la moindre marche ratée peut faire très mal. Effectivement, on se demande si implémenter de l'IA, ce sera aussi facile à faire qu'à dire.
avec donc ce délai hein, qui est long. Hein. On parle de 2025 maintenant, Fred, hein, pour toutes oui. ces.
Bah, en fait, si vous regardez, c'est pas mal les blocs de développeurs, enfin les blogs, toutes les communautés de développeurs, mm-hmm. qui d'un côté se sont dit assez enthousiastes, quand ils ont vu à chaque fois, hein, comme tous les développeurs, on entend tous les cris dans la salle et tout ça. C'est, bon, là, c'était pas en public, mais on aurait pu les entendre parler sur l'organisation des applications, sur la personnalisation. Ça, ils trouvent ça super. Par contre, comme l'a dit Michel, quand on regarde leurs grosses inquiétudes, c'est autour de la confidentialité des données. Et puis derrière, ils trouvent que quand même, quand ils commencent à rentrer un peu dans le truc, c'est assez complexe, quoi, ouais. à mettre en œuvre. Ils se disent, oula, là, tout ce qu'on nous demande avec des rajouts de bouillie, il faut être développeur pour bien suivre tout ce qui se dit dans ce domaine. Ils se disent, ça ne va pas être aussi évident à mettre en route, surtout avec l'histoire de la confidentialité des données. Et je pense que là, il y a pas mal d'inquiétudes du côté des développeurs. En plus, là, on voit ce retard. On le dit souvent ici, mais que fait Apple ? On ne les entend pas. Et là, j'avoue que le soufflet est en train de retomber et je ne pense pas qu'à...
Ils ont des beaux processeurs, ils vont bien trouver un truc à leur faire faire quand même. Ces processeurs hyper puissants, qui sont taillés pour l'IA. Oui,
mais tu vois, moi je me demande si en ce moment, et je trouve que la communication en ce moment de Gemini est hyper forte. Alors, et nous, on est en Inde et on parle en anglais et on parle en 9 langues indiennes. Et non, mais Gemini, ils mettent un peu le paquet en ce moment. Et je me dis, mais ils devraient tous en profiter, quoi, les Gemini, les Samsung aussi, pour dire bon, attendez, regardez, les autres sont à la ramasse. Nous, on est en train de vous sortir le téléphone qui traduit. On vous sort dans plusieurs langues les Gemini. Bon, d'accord, il y a quelques petits accros.
Sauf qu'ils sont, vraiment moins bons. Ils sont moins bons qu'Apple en storytelling.
On nous dit de manger des petits cailloux de temps en temps, mais vous saurez l'écarter quand même. Mais je pense qu'on va. Ce qui va être intéressant de voir, c'est, je crois, est-ce que les autres vont déployer toutes leurs armes marketing pour dire pour une fois qu'on peut taper sur Apple, parce qu'ils n'ont plus. Peut-être plus le petit coup d'avance, allons-y gaiement.
Et puis il y a un autre problème, c'est la guerre des prix quand même, hein, parce que Apple est positionné sur un segment luxe,
mais tu peux pas
avec
te permettre,
des prix, et on peut pas se permettre de pas être au niveau fonctionnellement de ton concurrent, alors que tu es jusqu'à deux fois plus cher parfois. Voilà. C'est pas possible.
Et puis les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont attendre le marché chinois, les Chinois, ils sont en train de développer leur propre et même au Japon, ils ont commencé à avoir des LLM assez performants. Tout le marché asiatique, est-ce qu'ils vont peut-être dire à Apple, écoutez, là, c'est gentil, mais nous, chez nous, on fait mieux et pour moins cher.
Bon. Écoutez, on verra bien tout cela, le calendrier s'il se précise du côté de chez Apple. Toujours chez Apple, autre calendrier, c'est le Vision Pro, qui enfin, après avoir été mis à disposition des Américains, c'était en janvier dernier, si mes souvenirs sont bons, janvier ou février, le voilà qui arrive donc en France, c'est le 12 juillet prochain. Alors c'est le même que celui qui est sorti l'hiver dernier. Hein.
Il est francisé.
Il parle
français maintenant.
Voilà, on dit le Vision Pro maintenant et pas le Vision Pro.
Non, l'interface est en français.
Oui, j'espère. J'espère quand même. Alors 3 990 €. Visiblement, Apple n'en vend pas autant que prévu. Hein. D'après ce que j'ai pu comprendre et en lisant un petit peu ce qui se passe sur les blogs, les usines ont arrêté les précommandes. Enfin voilà, toutes les pièces détachées du Vision Pro sont à l'arrêt. En tout cas, la fabrication de ces pièces détachées, ça veut dire que finalement, Apple n'en vend pas assez. Et donc, la stratégie d'Apple, c'est de vite reprendre un peu le dessus avec un nouveau casque moins cher, moins performant, qui s'appellerait le Vision et qui pourrait sortir, alors on ne sait pas quand, mais je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais visiblement Apple mettrait même en pause le projet du prochain Vision Pro 2 qui serait le haut de gamme pour se focusser en fait sur un produit plus abordable pour redonner encore, enfin pour raconter une histoire autour du Vision Pro, parce que là ça devient compliqué quand même.
En même temps, le Vision Pro a toujours été un produit à destination des professionnels pour créer un écosystème d'applications. On ne peut pas sortir un produit comme celui-là sans avoir énormément d'applications. Donc, c'était assez logique, surtout à ce prix-là, que tout le monde ne se balade pas le lendemain avec un Vision Pro. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, mais ça a été aussi la stratégie de Meta, ils vont sortir un produit, cette fois-ci, plus grand public, qui va nous permettre d'utiliser ces fameuses applications qui vont être développées ou qui ont été développées par un certain nombre de professionnels. Moi, je pense qu'il va être beaucoup plus fin,
Parce que Apple se dirige vers ce qu'ils appellent le thin computing. On l'a vu avec le dernier iPad qui est beaucoup plus fin d'ailleurs. Ouais. Il y a une tendance d'affiner les produits d'Apple.
Même pour les iPhones de 2025, ouais. Visiblement.
Donc ça c'est une tendance intéressante en plus parce que c'est quand même un produit massif. Hein. Et puis le prix, évidemment. 4000 euros, c'est inabordable. Personne ne va. Enfin, bien sûr, il y a des early adopters qui vont se l'acheter, mais c'est quand même très compliqué d'imaginer de mettre 4000 euros dans un produit comme celui-là, sachant que le price point est de l'ordre de 300 à 400 euros chez les concurrents avec un Meta. Hein.
C'est ça le problème, surtout, ouais. Peut-être.
Donc, comment est-ce qu'ils vont
Mais du coup, quid de l'informatique spatiale ? Parce que c'est ce qu'ils nous ont vendu. Hein. On est sur un nouvel ordinateur.
Ça va prendre plusieurs années.
Parce que là, si on discutait de ça tout à l'heure avec François en préparant l'émission, là, oui, le Quest Pro, il y a 499
je crois.
499.
Enfin, voilà, dans les 500 euros, on est quand même.
Et rappelez-vous la petite vidéo de Mark Zuckerberg où il expliquait qu'en fait, c'est pas si bien que ça, Vision Pro, et que le Quest faisait pareil. Mais cette vidéo, elle a fait du bruit finalement. Mm-hmm. Elle a eu des conséquences. Enfin, c'était un truc tourné sur un bout de canapé, mais le message est passé. Et c'est vrai que moi, je serais curieux de savoir si. Cette option d'un deuxième casque un peu low cost, est-ce que c'était un plan B qui était prévu ou est-ce que c'est un plan d'urgence ? Est-ce que c'est un truc, tout d'un coup, quand ils ont vu les chiffres, ils se sont dit « Oh là, oh là, Tim, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ils ont tout changé. Ou alors, est-ce que, en grand stratège de la tech, ils avaient déjà envisagé cette option-là ? Et ça, personne ne le saura, évidemment.
Et puis, quel est le prix qui pourrait rendre ce type de produit populaire 500, chez Apple c'est ça le problème.
Quand même dire la qualité du Quest, le Quest 3, c'est quand même de qualité. Hein, ouais. Quand on le met,
Mais comparé au Vision, il l'avait fait, hein, Zuckerberg. On n'est pas très loin en termes de qualité. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est que pour 500, pour 8 fois moins cher. On a un produit qui n'a
pas la batterie et tout ça. Mais c'est là où... Moi, j'imagine toujours ce Vision Pro un peu... Tu sais, comme on voit parfois sur certaines vidéos 3D, tout démonté, là, tu vois, chaque pièce, tout ça. Et là, ils se disent, bon, alors, les gars, maintenant, on a tout ça.
Qu'est-ce qu'on enlève ?
Ou alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part carrément sur les lunettes ? On a vu que Meta, ça marchait plutôt pas mal avec Ray-Ban. Enfin, on commence à en voir. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Silicon Valley récemment, mais ça commence à... On commence à en voir. En tout cas, de plus en plus. Et je me dis, peut-être qu'ils vont dire, ces fonctions-là, on va les mettre sur l'iPhone, celles-là, on va les mettre sur un ordinateur, celles-là, on va en faire des lunettes. Parce que le côté. On suit quand même Apple depuis pas mal d'années, mais le côté je rétrograde et je sors un produit low cost.
Ça passe pas très bien.
C'est un peu l'iPhone SE, finalement.
Oui, remarque, c'est vrai.
Apple a toujours sorti un produit, bien sûr, beaucoup plus abordable, qui est vraiment dans un segment.
Du téléphone, c'est un côté un peu.
Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, le Vision Pro coûte 4 000 $. Quel est le prix cible qu'Apple imagine pour un masque abordable ? C'est quoi ? C'est 1 000 euros, 1 500 euros ? Enfin, ça veut dire que tu enlèves 2000 euros d'innovation technologique.
Ça me paraît.
Qu'est-ce que tu fais ? Tu baisses la résolution de tes écrans qui est à l'intérieur, tu enlèves les capteurs, ils vont être obligés de faire des concessions technologiques. Tu
enlèves les écrans extérieurs, peut-être.
Sans doute, ça, je pense que c'est la première chose qui va être enlevée. Mais passer de 4000.
6 heures d'autonomie, donc il en reste une.
C'est ça. Mais passer de 4000 à 1000 ou 1500 euros, tu es obligé de faire pas mal de concessions.
Et même 1500 euros.
Beaucoup de produits.
Et même 1500 euros, est-ce que c'est 1500 euros ? Donc tu te dis que peut-être, en plus avec le design d'Apple, parce qu'ils sont quand même très forts en design, on peut arriver à un prix peut-être autour de 1000-1200 euros.
Est-ce que
ça vaut le coup ?
Mais est-ce qu'à 1000 euros, tu serais prêt à acheter un masque Apple aujourd'hui ?
Aujourd'hui, avec les applications qu'on a, probablement pas. En même temps, je suis un early adopter et
on est mal placé, nous, là, tous.
Non, mais on ne va pas mettre 1200 euros pour un produit qui va rester dans un tiroir. Tu vois, c'est pas. J'ai par exemple acheté le Rabbit Air One. Le truc orange.
Ah, c'est
là.
Toi donc ?
Oui, il n'y a que moi. Non, beaucoup de gens l'ont acheté. Bon, ça coûte quand même assez cher, ça coûte 250 ou 300 euros. Je l'ai acheté. Il est dans un tiroir. Ça ne sert à rien, ce machin-là. Mais bon, c'est pas 1200 ou 1500 euros.
Ah, tiens, la prochaine fois, tu nous en parleras de ton expérience.
Oui, vous l'amènerez, vous le garderez peut-être aussi.
C'est vrai ?
Ah là là. Ça n'est pas un produit, c'est un bout de plastique.
La prochaine fois, il faut vraiment que tu nous fasses une petite preview.
La semaine prochaine.
Tu es là la semaine prochaine? Oui. Allez, on se garde ça avec. Et tu nous raconteras ton expérience avec le Rabbit.
C'est un truc de geek.
Tu l'avais testé aussi,
oui,
toi,
oui,
Jérôme,
moi,
à Miami.
Pas très longtemps, mais oui. C'est vrai que c'est pas le truc, tu te dis, oh, bah, c'est bon, j'ai plus besoin de mon téléphone. Pas du tout. Mais il y a des choses amusantes, moi, qui m'avaient bien plu, quand même. Le concept, je trouvais ça sympa. Et oui, puis si tu es geek et que tu bricoles, tu peux en faire quelque chose. Tu peux en faire une espèce de sous-produit pour un enfant ou un truc comme ça. Il y a peut-être des idées à trouver. Hein.
Bon. Bah. Oui,
moi je très rapide. Si on va arriver à un truc, alors pour les plus anciens, j'arrive pas à me retrouver l'album. C'était, vous savez, cet album d'Obélix qui vend des menhirs. Enfin, d'Astérix et Obélix vend des menhirs. Et tout le monde se met à faire des menhirs. Et bref, à la fin, on brade un peu les menhirs d'Obélix. Et je me dis, alors non pas que tout le monde va faire des casques, mais est-ce que Apple finalement va pas essayer de nous trouver un moyen de, pour un iPhone acheté, on va pas,
c'est vraiment pas la politique commerciale d'Apple.
Mais
ça,
non, mais tu vois, mais avoir un package pour essayer de pousser un peu.
Vendu en supermarché.
Ouais. Non, pas en supermarché, mais tu vois
tu sais, sur les étalages,
une façon de s'en sortir pour pas avoir un vrai
en fin
prix,
ouais, mais
pour pas mettre un prix.
Tu connais mieux que moi Apple. Ouais. C'est vraiment pas dans leur ADN. Mais... c'est vraiment pas dans leur ADN de dire. Samsung fait ça souvent. Vous achetez le Galaxy S24, on vous offre la montre, on vous offre des pods ou des trucs comme ça.
Et Apple
ne fait jamais ça. Apple, t'achètes ton iPhone, t'achètes tes AirPods.
Ils sont hypocrites. Ils le font faire par d'autres.
Voilà.
Ils le font faire par des distributeurs. De temps en temps.
C'est rare hein, quand même.
C'est rare.
T'achètes un produit Apple, on t'en offre un deuxième. C'est rare.
Non, je dis pas offert, mais on te fait un package avec vous aurez les applications, les jeux vidéo et tout ça.
Ouais.
Achetez le nouvel iPhone et vous aurez le cas pour 1 200 € de plus. Vous avez le casque avec tout un bundle, tu vois, histoire de faire passer le prix.
Bon, écoutez, là pour l'instant c'est du fantasme, tout ça on verra bien. On ne sait même pas quand tout ça sortira en fait, hein. Ça sera peut-être en 2025 ou même 2026.
Ah, le Vision.
Ouais, le Vision, on va dire, d'entrée de gamme. Même si ça fait rigoler de dire entrée de gamme chez Apple.